Voilà, je lis avec vous cette parole dans Hébreux 11 au verset 3. Il est dit dans Hébreux 11 au verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc c'est déjà un verset extrêmement important. Parce qu'il est dit, c'est par la foi que nous comprenons. Ça veut dire que la création, il faut un acte de foi pour croire que Dieu a créé. Mais nous le verrons en particulier dans la deuxième soirée, où nous aborderons un peu plus les questions philosophiques qui sont derrière la théorie de l'évolution, mais aussi on va comparer davantage la parole de Dieu avec la philosophie au travers des siècles. Mais pour ce soir, j'ai à cœur de faire un certain parcours. D'abord, on va commencer. C'est plus simple. Tout d'abord, quand on parle de la théorie de l'évolution, ce qu'il faut savoir, c'est que les médias aujourd'hui, les livres, les encyclopédies, les enseignements dans les écoles, jusque dans les universités, ne parlent que d'une théorie de l'évolution, c'est-à-dire la théorie classique de Darwin. Ça veut dire que voilà, il y a dans chaque naissance des petites variations génétiques qui sont sélectionnées par la nature, triées par la nature, qui gardent les plus forts et qui éliminent les plus faibles. Et donc, ces petites variations peuvent donner des avantages qui, lorsque le terrain, lorsque le biotope change, peut permettre à certaines espèces de progresser davantage que d'autres. De là à dire que tout vient d'une bactérie jusqu'à l'être humain, je trouve qu'il faut une foi incroyable pour croire cela. Mais c'est la théorie classique de l'évolution. Par contre, j'étudie cela depuis 40 ans, il y a de grands savants qui ont remis en question la théorie classique qui est toujours enseignée aujourd'hui partout, mais on n'en tient pas compte. Par contre, voyez par exemple, Pierre-Paul Grasset a été de l'Académie des sciences, un des plus grands biologistes du XXe siècle, qui a écrit des tas d'ouvrages. Il a écrit « Les doctrines explicatives de l'évolution biologique ne résistent pas à une critique objective approfondie. L'usage et l'abus de postulats occultes, d'extrapolations téméraires et souvent mal fondés ont créé une pseudo-science. » Mais pourtant, il est évolutionniste, vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a seulement deux solutions. Soit vous admettez qu'il y a un créateur, alors après, il y a différentes formes de créationnisme, on va en parler, vous pourrez poser des questions aussi. La question des 6 jours, est-ce que c'est 6 jours, est-ce que c'est des millions d'années? Il y a toutes sortes de questions qui se posent, on va les traiter. Mais il faut savoir que des savants comme Pierre-Paul Grasset, eux disaient, oui, l'évolution, c'est obligé que ce soit l'évolution, mais on n'est pas d'accord avec la théorie classique. Et, par exemple, Dobzhansky, qui a été un des plus grands évolutionnistes du siècle passé, vraiment mondialement connu, il a écrit ceci. On peut ne pas être d'accord avec Grasset, mais l'on ne peut pas l'ignorer. Et moi, c'est ça que je fais depuis 40 ans en disant, écoutez, mettons tout sur la table. On va essayer de tout expliquer, ce qu'on peut expliquer. On met les choses sur la table. Or, aujourd'hui, tout un courant, évidemment scientifique, refuse de mettre les choses sur la table. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que jusque dans les milieux évangéliques, on commence de refuser aussi de mettre les choses sur la table. Parce que nous le verrons, même en milieu évangélique, on doute maintenant très sérieusement de ce que la Bible nous enseigne. Il y a eu comme une bombe Michael Denton qui a écrit dans les années, vous voyez, il a écrit dans les années 80, en 88 ce livre Évolution, une théorie en crise. Et ça a été une véritable bombe parce que c'était un biologiste mondialement connu aussi. Et d'écrire justement, l'évolution d'une théorie en crise, ça fait beaucoup de bruit. Au point que, il a écrit ceci, on aurait pu s'attendre qu'une théorie aussi capitale, une théorie qui a littéralement changé le monde, et c'est vrai, la théorie de l'évolution a changé la mentalité de l'Occident et même de notre monde, soit autre chose qu'une spéculation métaphysique, qu'un mythe. En fin de compte, la théorie darwinienne de l'évolution n'est ni plus ni moins que le grand mythe cosmologique du XXe siècle. Vous savez que toutes les civilisations ont essayé d'expliquer pourquoi on était là. Toutes les civilisations ont essayé d'expliquer pourquoi il y avait quelque chose plutôt que rien. Et d'où venaient les animaux et quelle était notre conscience? On va aborder ces choses aussi. L'intelligence, est-ce que tout est matière ou tout n'est pas que matière? C'est d'ailleurs le sujet de mon doctorat, puis je travaille là-dessus depuis quelques années. Et donc, Michael Denton dit, eh bien voilà, pour le XXe siècle, c'est vraiment le grand mythe cosmologique, et pourtant il est enseigné partout. Parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre à la place. C'est ça le problème. Et quand Michael Denton a publié ce livre, Science et Vie a d'abord dit, ouh, ça c'est formidable, ils ont même écrit sale temps pour Darwin. Mais ils ont reçu tellement de lettres de contestation de gens qui disaient, mais vous êtes malade. Parce que si vous mettez en doute la théorie de Darwin, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous en rendez bien compte, on le verra aussi, derrière la théorie de Darwin, il y a évidemment, je n'hésite pas à dire, un projet antichristique de démolir la foi chrétienne. Et on peut dire, c'est d'ailleurs pour ça que je donne des conférences et que je me suis penché sur cette question en tant qu'ancien scientifique aussi, parce que des centaines de milliers de jeunes ont perdu la foi à l'école. Et parfois dès la petite classe, parce qu'on leur disait, contrairement à ce que la Bible dit, j'ai des encyclopédies qui sont noir sur blanc, contrairement à ce que la Bible dit, nous savons que la vie est apparue dans l'eau, etc. Et donc, et vous savez, quand c'est enseigné dans les écoles et ensuite dans les universités, souvent les jeunes n'ont d'admiration que pour leurs professeurs. Et donc, beaucoup sont dit, mais alors si la Bible c'est déjà faux dans le début, qu'est-ce qui reste de juste, voyez? Donc, ils ont reçu tellement de contestation, mais ils ont mis 4 ans pour trouver le scientifique qui pouvait croiser le fer avec Michael Denton. Et donc, ils ont dit qu'ils avaient perdu la lettre principale. Moi, je veux bien les croire, mais on peut aussi avoir quelques doutes. Est-ce que je parle assez fort pour tout le monde? Ça va? Très bien. Et donc, c'est 4 ans plus tard qu'ils ont trouvé le professeur Langanet, et ce professeur Langanet a été donc a dirigé le laboratoire d'anthropologie, de biologie du Musée de l'Homme, et le Musée de l'Homme à Paris, comme le Muséum national, si on peut dire, c'est le centre profond des théories d'évolution depuis Darwin, on peut le dire comme ça. Et donc, il a été professeur à l'université de Genève. Il a pris sa retraite, je crois, maintenant, il y a 2 ou 3 ans. Et lui, c'est lui qui a répondu à Michael Denton. Je ne veux pas tout lire ici. Il parle des mathématiques, la logique. Mais déjà au point 2, vous voyez, la quasi-absence de fossiles intermédiaires entre les espèces et de Lamarck et Darwin jusqu'à nos jours, l'un des défis majeurs. Or, on trouve jusque dans des livres évangéliques aujourd'hui qu'une des preuves de l'évolution, ce sont les fossiles. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tout simplement. Et dans mes conférences, dans tout ce que je partage maintenant avec vous dans cette première partie, je ne prends que des évolutionnistes qui mettent en doute la théorie classique de l'évolution. Donc on ne peut pas dire oui, mais ce sont des chrétiens qui tirent la couverture à eux. Pas du tout. Parce que je donne ces conférences parfois dans des milieux aussi universitaires. Il y a des fois des gens du CERN de Genève qui sont là, ou même de l'EPFL. Donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Mais certains, des fois, viennent vers moi en disant, comment mon maître Pierre-Paul Grasset a écrit cela, vous voyez, des biologistes parfois, qui sont tout à fait étonnés. Et ensuite, il dit, le passage de l'inanimé à la vie, puisque la théorie classique, hein, de dire, voilà, tout à coup, la matière est devenue vie. On ne devra reparler de cela, parce que c'est quasi un miracle. D'ailleurs, ils le reconnaissent, que c'est un... Il dit, voilà, comme d'ailleurs beaucoup d'autres théories d'évolution dans l'état actuel de la science, ce n'est pas suffisant pour le prouver, mais ce n'est pas non plus une raison pour rejeter cette hypothèse plus simple que l'irrationnel qu'elle n'exclut d'ailleurs pas. Donc, il ouvre la porte en disant, c'est tellement compliqué pour créer la vie qu'il ne faut pas exclure le miracle, il ne faut pas exclure l'irrationnel. Et dans un autre texte, vous savez, j'écrème aussi les journaux depuis, pas tous les journaux du monde évidemment, mais j'écrème les journaux depuis plus de 40 ans. Et on trouve des fois, même dans un journal comme La Coopération ou le journal de la Migros ou des journaux en guillemets très populaires, des interviews de scientifiques qui disent des choses, ils osent dire des choses là des fois qu'ils ne disent pas dans des conférences publiques ou dans leurs livres officiels. Et donc, on l'interroge à propos d'un roman de Bernard Weber qui a écrit Le Père de nos Pères, qui est un roman bien sûr basé justement sur l'évolution. Et le journaliste lui pose finalement la question, est-ce que le chaînon manquant existe? Parce qu'on nous bassine tout le temps, dans Science et Vie, dans toutes sortes de revues, en nous disant, nous avons trouvé le chaînon manquant en telle espèce et une autre espèce. On a trouvé enfin le chaînon manquant. On nous dit tout le temps ça. J'ai des articles à n'en plus finir. Un jour, je vais livrer tout ça. J'espère que le Seigneur me prête la vie encore un moment. Et je vais envier de mettre tous ces articles une fois disponibles sur l'ordinateur. Parce que c'est des dizaines de pages de couverture où il est dit, nous avons trouvé le chaînon manquant. Eh bien, lui, il dit aux journalistes, le chaînon manquant existe-t-il? On a découvert qu'il n'y a pas de chaînon manquant. La chasse a complètement échoué en paléontologie. Mais on devrait écrire ça contre les murs, vous comprenez? Alors qu'on enseigne encore et toujours qu'une des preuves, même dans des livres évangéliques, on enseigne encore qu'une des preuves de l'évolution, ce sont les fossiles et les chaînons manquants. Eh bien, un professeur comme Langané dit non, pas du tout. On pourrait parler de Rémi Chauvin, un biologiste entomologiste français, professeur honoraire émérite à la Sorbonne, docteur en sciences, maître de recherche depuis. Enfin, il a écrit des tas de livres, et il a écrit un livre, le Darwinisme ou la fin d'un mythe, vous voyez. C'est majeur. Mais ceux qui tiennent maintenant le Muséum National, et ça fait partie de ma thèse de doctorat, qui ont voulu que l'Europe vote une résolution qui est liée aux questions de l'évolution, je vous en parlerai peut-être un peu, mais ça veut dire que ceux qui tiennent maintenant Science et Vie, Arte, la chaîne de télévision Arte, le Muséum National, je dirais même le Conseil de l'Europe, sont des personnes, quand on leur parle de Rémi Chauvin, de Pierre-Paul Grasset, ils les écartent d'un revers de main en disant « Oh, c'est des catholiques ». Voilà. C'est des catholiques, comme on dit aussi, bon, c'est des évangéliques, donc on ne peut pas discuter avec eux, ça ne sert à rien. Et pourtant, il s'agit de personnages qui ont été mondialement connus. Donc lui, le darwinisme ou la fin d'un mythe. Il écrit « Ce qui me stupéfia le plus, ce fut la pratique d'un mode de raisonnement incroyable, dont on ne se sert nulle part ailleurs dans les sciences et qui consiste à considérer les hypothèses comme des faits. » C'est ça le problème. C'est qu'on nous dit toujours « c'est un fait ». Alors moi, je ne me laisse plus compter les choses. Parce que quand on me dit « c'est un fait », je dis d'abord « c'est quoi un fait ?» Et les gens sont déjà empruntés. Quand on dit « c'est un fait que l'évolution a été démontrée », je dis « mais sur quel fait vous vous basez ?» Et les gens sont déjà empruntés. Et donc, on a le droit de faire des hypothèses. Tout le monde a le droit de formuler une hypothèse. Mais après, il faut la démontrer. Et là, on entre dans des questions philosophiques très complexes. Parce que pour qu'on admette un fait réellement, il faut qu'on puisse le reproduire en laboratoire. Or, la question des origines, personne n'y était. Donc ça veut dire déjà que là, on est sur des hypothèses, mais ce qui est formidable, c'est que les créationnistes, il y a des savants, je vais vous en parler, eh bien, eux sont capables des fois en laboratoire de montrer certaines choses pour expliquer la création des montagnes ou le déluge, on en parlera aussi. Maintenant, encore un de ses livres. Alors, Rosine Chambois, par exemple, a écrit « Pour en finir avec le darwinisme, une nouvelle logique du vivant ». Donc, elle est évolutionniste, mais une fois encore, elle dit « Le darwinisme ne tient pas la route ». Or, on ne parle que du darwinisme. Et dans la résolution 1580 du Conseil de l'Europe sur laquelle je travaille, quand il est question de l'évolution, ce n'est qu'une seule évolution, celle de Darwin, la théorie classique depuis 200 ans. Vous voyez, Darwin a écrit « La vie est apparue dans un petit étang chaud, n'est-ce pas ? Voilà, très bien, dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques, organiques, à partir desquels s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. » Il faut savoir aussi, c'est que dès qu'il y a problème, on met des millions et des milliards d'années. C'est vrai que 1000 ans, c'est déjà incroyablement long. Déjà 100 ans, c'est beaucoup. 1000 ans, c'est énorme. 10 000 ans, on sait à peine ce que c'est. 1 million d'années, plus personne ne sait ce que c'est. Des milliards d'années, vous voyez. Donc, ils disent, voilà, il n'y a pas de problème, il y a eu des milliards d'années. Mais les milliards d'années n'expliquent rien du tout. Vous voyez, la vie... Quand on prend aussi d'autres scientifiques qui parlent de la vie, au lieu de dire, voilà, c'est apparu dans un bouillon, comme on l'a, la soupe primitive, comme on l'a dit, maintenant on dit c'est dans le fond des océans, mais ça ne résout pas mieux les problèmes. Mais ils disent, Bill Bryson, par exemple, quoi que ce soit qui ait fait naître la vie, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Pourquoi ? Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que la théorie de l'évolution est basée, effectivement, comme son nom l'indique, sur l'évolution. Donc, il faut qu'il y ait eu une seule cellule qui soit devenue vivante et que cette seule cellule ait déroulé tout le processus d'évolution depuis les bactéries jusqu'aux humains que nous sommes. Parce que comme tout est basé sur le hasard, c'est-à-dire des mutations génétiques qui arrivent par hasard, qui sont triées par la sélection naturelle, on a expliqué, par exemple, que les girafes, c'était des antilopes qui, il n'y avait plus grand-chose à manger sur la terre. Alors, à force de tendre le cou pour manger les feuilles, eh bien, c'est celle qui avait le cou le plus long qui pouvait le mieux se nourrir. Et comme elle pouvait le mieux se nourrir, elle pouvait avoir une meilleure descendance. Et donc, ils expliquent, mais ça ne tient pas la route. Mais ça a été expliqué pendant longtemps et on trouve encore cela, des exemples comme cela, dans des livres, même pour les étudiants. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, un évolutionniste a dit, avec raison, si on déroulait le film à l'envers, selon eux, jusqu'à 600 millions d'années en arrière, par exemple, et puis qu'on repart de là, on n'aurait jamais le même monde, parce que le hasard ne peut pas faire deux fois la même chose, et surtout pas deux fois pour tous les animaux et tous les êtres humains. Donc, la théorie de l'évolution postule que tout part d'une seule cellule. Mais déjà là, on est en contradiction avec la parole de Dieu, parce que Dieu a créé des espèces séparément. Il a donc donné la vie plusieurs fois. Et en passant, un des grands problèmes que je vous soumets, je crois avoir trouvé la solution, quand Moïse jette son bâton, et Aaron, qui devient vivant, vous imaginez, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais les sorciers font la même chose. Alors, est-ce que Satan peut donner la vie? Moi, je ne le crois pas. Je crois que Dieu a permis cela, parce que Dieu permet des choses des fois. Et puis après, vous le savez, eh bien, le serpent de Moïse a mangé les serpents des sorciers. Mais ça veut dire que pour moi, Satan ne peut pas donner la vie. C'est Dieu l'auteur de la vie. Et donc, il peut la donner quand il veut. Par contre, la théorie de l'évolution exige un seul départ, une seule cellule pour la logique. La vie est une, dit Matridley, nous sommes le résultat d'un unique tour de magie transmis de génération en génération pendant près de 4 milliards d'années. Imaginez. Un tour de magie, parce que c'est pour ça qu'on cherche la vie ailleurs. Parce qu'on est à peu près convaincu que c'est presque impossible. Il faut tellement de conditions, parce qu'une seule cellule, est d'une complication infinie. Certains disent que c'est aussi compliqué qu'une ville d'un million d'habitants avec toute son industrie, toute sa structure. C'est quelque chose de phénoménal, une seule cellule. Donc on ne peut pas dire simplement que voilà, il y a eu une petite étincelle et puis il y a quelque chose qui a commencé de vivre. Non. Maintenant, un petit détour par un des grands philosophes de la science, Karl Popper, qui, lui, a donné une conférence à l'université de Cambridge au cours de laquelle il s'est rétracté parce qu'il avait commencé par dire que la théorie de l'évolution n'était pas une théorie scientifique. Parce que, disait-il, en fait, il faut pouvoir vérifier les choses, et là on ne peut pas vérifier les choses. Il a écrit beaucoup de livres en démontrant que c'était impossible, que la théorie de l'évolution ne pouvait pas être une théorie scientifique au sens scientifique du terme. Mais il y a eu de telles pressions que dans une conférence il est revenu en arrière et il a dit que selon lui, la théorie de l'évolution, qui selon lui n'était pas réfutable, il est revenu en arrière. Ça veut dire que la théorie de Karl Popper est très importante, parce que si quelque chose n'est pas réfutable, ça veut dire que ça ne peut pas être une théorie. Vous dites, Dieu a créé, ce n'est pas réfutable. Donc ce n'est pas une théorie scientifique. Mais celui qui dit que la matière est éternelle, ce n'est pas réfutable. Vous voyez, les évolutionnistes, les matérialistes, comme on les appelle, vous parlerez des vrais matérialistes, ça veut dire que il n'y a rien à dire. Si vous dites, j'ai vu tout à l'heure un trolleybus de Neuchâtel qui volait dans le ciel, ce n'est pas réfutable. Vous comprenez ? Si vous êtes le seul à avoir vu ça, et puis que personne d'autre n'a jamais vu ça et que ça n'arrive jamais une deuxième fois, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas dire que scientifiquement vous êtes sûr qu'un trolleybus peut voler. Donc, mais Karl Popper est revenu en arrière sous des pressions phénoménales du point de vue des finances, du point de vue voilà, il y a des pressions internationales, mais la majeure partie des ouvrages maintenant disent, même Karl Popper a au fond a réfuté sa théorie. Or, j'ai un ami, Paul Gosselin, qui a écrit Fuite de l'absolu, deux ouvrages phénoménaux, assez compliqués bien sûr, mais des ouvrages très évangéliques. Il est canadien et lui, il a analysé les livres, parce que depuis que Karl Popper est revenu en arrière, il a vécu encore bien des années et il y a eu des rééditions de ses livres. Or, quand on revient en arrière sur quelque chose d'aussi fondamental, dans les rééditions, on met des notes et on écrit en disant, voilà, je reviens en arrière. Or, il ne l'a jamais fait. Et Paul Gosselin a, pendant 15 ans, il a écrémé tous les ouvrages en anglais qui ont été réédités. Il n'y a jamais eu la moindre rétractation ou même une petite note en bas de page pour dire ce qu'il avait dit publiquement une fois, comme pour dire, bon, ben, puisque vous voulez m'entendre là-dessus, je suis d'accord, c'est quand même une théorie scientifique. J'ai donc consulté les rééditions anglaises les plus récentes, mais je n'ai trouvé aucune modification. Aucune modification des arguments les plus cinglants contre la théorie d'évolution. Je n'ai même pas trouvé l'ajout d'une note en bas de page. Mais c'est des choses importantes que j'ai envie de transmettre jusqu'au gouvernement européen, mais les gens qui sont entêtés dans l'évolutionnisme, même dans le cas de l'Église, ne viennent pas vous écouter. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Maintenant, il faut qu'on parle des dinosaures. Parce qu'évidemment, je dirais que l'argument majeur des évolutionnistes, ils tiennent, je dirais, un argument de vente, ce sont les dinosaures. On les voit partout, on nous en parle tout le temps. Même mon petit-fils de Paris, qui a maintenant 8 ans, mais à 6 ans, il savait, il jouait déjà avec des dinosaures en plastique, évidemment, comme tous les enfants, mais il savait qu'ils avaient disparu depuis 60 millions d'années. Il ne sait pas ce que c'est que des millions d'années, mais il a lu ça, il l'a entendu, il y a des jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Donc, je dirais, même les chrétiens, je ne veux pas vous interroger, mais beaucoup, beaucoup de chrétiens disent « Ah, mais quand même, on sait qu'ils sont éteints depuis 60 millions d'années. Et puis, on sait qu'il y a eu là des phénomènes cosmiques, etc. » Il y a des films tout le temps là-dessus qui passent à la télévision, sans compter les journaux, les livres et tout. Donc, c'est quelque chose qui est implanté. Notre disque dur est formaté depuis l'enfance. Les dinosaures sont éteints depuis 60 millions d'années. Or, je veux vous passer un petit clip. J'ai réussi ça, je ne peux pas le transmettre parce que j'ai réussi à prendre des films sur Arte et ensuite à pouvoir les réduire en quelques minutes. Donc ici, je vous explique ce qui va se passer, c'est que une femme qui était dans la recherche sur les ossements de dinosaures a fait une découverte incroyable. Et puis, elle en a parlé. Alors, ça a été d'abord, comme toujours, « Ah, mais c'est formidable !» avant qu'on dise « Enfin, attendez, vous êtes malade, c'est pas possible. » Donc, on n'en parle plus. Sauf que beaucoup, maintenant, en parlent de nouveau. Alors, on va écouter ce petit clip ici. Voilà.
Laboratoire du Musée des Rocheuses dans le Montana.
C'est un film que ce M6.
C'est ici qu'en étudiant des ossements de tyrannosaures, cette paléontologue américaine a fait une incroyable découverte.
J'ai remarqué que cet os de tyrannosaure avait quelque chose de différent par rapport aux ossements fossilisés habituels. Quand on a séparé les morceaux de l'os pour bien le reconstituer, on a trouvé à l'intérieur ce morceau d'os spongieux. Le voici. Ce n'est pas un fossile habituel. Dans un fossile normal, tous ces espaces vides sont comblés par des minéraux. Et le tout forme une pierre très solide.
Dans ces vides, Marie Schweitzer va trouver des restes de globules rouges miraculeusement préservés. Et à l'intérieur, des morceaux de l'hémoglobine du dinosaure.
Ces formes sont très caractéristiques et n'ont encore jamais été observées sur aucun fossile de dinosaure. Si ce sont bien des restes de globules rouges, cela veut dire que l'on va peut-être y trouver de l'ADN bien conservé.
Marie Schweitzer est donc repartie à la recherche de l'ADN du tyrannosaure. Va-t-elle retrouver intact le patrimoine génétique de cet animal disparu depuis 70 millions d'années? La réalité se rapproche lentement de la fiction, même si on est très loin de recréer un dinosaure vivant. Et après tout, cela vaut peut-être mieux.
Vous voyez, on pourrait parler une heure sur un film comme ça. Sur un bout de film comme ça. Parce que d'abord, ils vous disent le sang qui a été... On trouve du sang. Si on avait dit à un physiologiste, un médecin, à ceux qui sont dans les laboratoires, est-ce que le sang peut se garder quelques centaines d'années? Des milliers? Des millions? Ils auraient dit, ça c'est impossible. Donc, là déjà dans ce film, on dit, il s'est gardé miraculeusement. Vous voyez comment on utilise des mots qui n'ont rien à voir avec la science. Et quand Karl Popper dit, attention, de quel mot est-ce qu'on utilise quand on parle des choses? Donc en science, dire ça s'est conservé miraculeusement, c'est pas très scientifique. Et donc, ensuite, ils disent là, eh bien, on ne savait pas que ça pouvait se garder 60 millions d'années. Voyez? Donc, on ne se pose même pas la question. Vous vous souvenez quand les scientifiques disaient, c'est un mythe, c'est, on transforme des hypothèses en faits, eh bien là, c'est un exemple. On trouve du sang, au lieu de se dire, mais on doit tout revoir, non, non, on ne savait pas que ça pouvait se garder 60 millions d'années, parce que le disque dur est formaté de cette manière. Et là, on n'est même pas au niveau des écoles, on est vraiment au niveau des plus hautes autorités, entre guillemets, scientifiques. Or, si on continue ici, je vais reprendre la diapositive actuelle. Donc on a vu, alors les dinosaures ont disparu depuis 60 millions d'années, et j'ai mis justement « est-ce réfutable ?» puisque Karl Popper a émis ses thèses philosophiques, est-ce que c'est réfutable ou non? Notre société a envie de dire aujourd'hui c'est pas réfutable, et pourtant nous avons vu Mary Schweitzer ici qui a trouvé des tissus mous. Mais, science et vie, évidemment, s'en est mêlé, mais ils sont devenus plus prudents. Donc, ils n'ont pas fait un gros titre, ils ont mis seulement un petit encart. Des globules rouges de dinosaures ont été retrouvés. Voilà. Et puis, ils disent, c'est parce qu'il y avait des particules de fer qui étaient mêlées à ces ossements que ça a pu garder le sang. Point à la ligne et on passe à autre chose. Voilà. Terminé. Mais, un autre ami ici a fait des recherches. Jean de Pontcharrat, et ils se sont dit, mais alors, parce que, comprenez, quand il y a une découverte comme celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne qui ose en parler. Parce que les autres n'osaient pas en parler. Mais dès que quelqu'un passe devant et ose en parler, il y en a plein qui disent, ah ben nous aussi on en a trouvé. On en a aussi trouvé, donc on en a trouvé beaucoup. Ce qui commence à faire beaucoup, c'est le cas de le dire. Et donc, ils se sont dit, mais alors, puisque ce n'est pas si vieux que ça, pour ceux qui étaient devant ce phénomène, on pourrait les dater avec le carbone 14. Parce que le carbone 14, la datation ne peut pas aller au-delà de quelques milliers d'années, même pas plus, pas beaucoup plus. Il faut d'autres moyens de radiométrie pour des millions d'années. Donc, ils ont décidé de passer ces ossements avec du tissu mou et de l'hémoglobine et du sang à l'intérieur, au carbone 14, et chose incroyable, vous voyez, on trouve les tricératops, les hadrosaures, toute la compagnie, hein, c'est pas n'importe qui, ça veut dire que, à partir de là, ils trouvent des dates qui vont, on va dire, depuis 20 000 ans à 36, 40 000 ans maximum. On n'est pas, à mon avis, encore dans les dates bibliques, mais on est à des millions d'années, des 60 millions d'années. Donc c'est une grande révolution dont on ne parle pas. Vous n'entendrez jamais parler de ça dans les émissions à la télévision ou dans les journaux classiques. Et dans cet ouvrage, malheureusement en anglais, on en sait, ils sont trop pris en Amérique pour qu'on pourrait le traduire, mais si des personnes savent l'anglais, je suis en train de faire les démarches auprès, par un ami interposé auprès de celui qui a écrit ce livre, qui est Maurice, dont vous avez entendu parler, parce que c'est le papa Maurice qui a écrit sur le déluge, etc. C'était des révolutions aussi au niveau évangélique, et ce livre est phénoménal. Simplement, quand on lit ça, on dit, voilà, le déluge était universel parce qu'il est mis en doute, évidemment, même dans des milieux évangéliques. Or, dans ce livre ici, j'ai trouvé de nouvelles analyses encore plus poussées. Vous voyez, toutes ces analyses sont datées. D'où viennent les ossements? Qui, dans quelle université ils ont fait les analyses? et il trouve là les dates qui correspondent à ce qu'on vient de voir avant, mais simplement qu'il y en a encore beaucoup plus. Donc on peut dire du point de vue scientifique, c'est incontestable, mais on n'en parle jamais. Sauf pour dire, on ne savait pas que le sang pouvait se garder des millions d'années, alors que le carbone 14 est formel pour toutes ces analyses. Il s'agit de milliers d'années, au plus 10, 20, 30, 40 000 ans, et ça, on n'en parle pas. Vous voyez, les ossements de Triceratops datés de 39 000 ans, alors qu'on a toujours écrit partout que c'était éteint depuis 60 millions d'années. Et puis, je vous promets que ce n'était pas des petites bestioles, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de... Parce qu'on dit qu'il y a encore des animaux aujourd'hui sur la Terre qui sont un peu de la famille des dinosaures, vous voyez? Mais pas ceux-là, on ne les trouve plus. Maintenant, j'aimerais vous parler du toxodon. Vous avez tous entendu parler du toxodon, n'est-ce pas? Donc, c'est... voilà. Mais, pourquoi je vous en parle? Parce que ce cher animal, ils ont trouvé des ossements là en Argentine, du côté de Mar del Plata. Mais chose étonnante, c'est que dans des ossements dûment datés, parce qu'on date les couches, et là les géologues sont formels, ils peuvent dater des couches de millions d'années selon différents critères, des mesures, mais aussi les ossements qu'ils trouvent dedans, et ils datent souvent des couches de 100, 200 millions d'années, 300 millions d'années, 1 milliard d'années, etc. Et là, dans des couches datées de plusieurs millions d'années, tout à coup, ils trouvent un fémur de toxodon avec une pointe de flèche d'un chasseur à l'intérieur de ce fémur. Donc les chasseurs, on peut remonter jusqu'à quand? Pas très loin. On peut remonter peut-être à 20, 30, 40 000 ans maximum pour trouver vraiment des chasseurs qui ont des arcs et des flèches. Et donc, ça pose un problème majeur. Et là, vous voyez, on est découvert dans une couche datée de 2 à 3 millions d'années au minimum. Et donc, ça pose toutes sortes de problèmes, parce que ces découvertes, on n'en parle plus. Or, j'ai découvert un livre, j'ai hérité une bibliothèque d'un physicien renommé en France, qui était créationniste, qui a passé une partie de sa vie à démontrer que la Bible était vraie. Et c'est un physicien qui a travaillé dans les centres nucléaires au temps de Gaulle, et... J'ai hérité sa bibliothèque et j'ai trouvé des livres que je n'avais jamais trouvés avant. Et ça me pose aussi quelques problèmes. Parce que j'ai envie de dire, il y a des fois des livres qu'on n'a même pas envie de lire. Bon, ils sont en anglais, mais un livre écrit par des bouddhistes. Donc, ce n'est pas des évangéliques qui ont envie vraiment de prouver que la Bible est vraie. Et ces bouddhistes, il y a d'ailleurs l'imprimatur d'un célèbre bouddhiste au début, comme l'imprimature de certains livres catholiques. Et dans un livre très épais, il relate toute une série de découvertes, telles que l'ossement de Toxodon, pour montrer comment on a trouvé les choses, que ça a d'abord été reçu comme quelque chose d'extraordinaire, que ça a été relaté dans des journaux locaux, relaté dans la presse scientifique, et qu'après, il y a eu une levée de bouclier comme Science et Vie, à l'époque, pour Michael Denton, et il montre comment, peu à peu, on a mis les choses sous le tapis. Et pourquoi on n'en parle plus? Certains disent, voilà, ça a été trafiqué, d'autres, ça a été fabriqué de toutes pièces. Enfin, ils sortent toutes sortes d'arguments, alors que les choses ont été faites très sérieusement. Et dans ce livre, vous avez... peut-être 10 ou 15 pages qui traitent seulement de la question de cette flèche dans un ossement de toxodon. Vous voyez, ils ont trouvé dans des couches qui sont datées de 2 à 3 millions d'années, ils ont trouvé des pierres de jet qui étaient faites pour des frondes comme David, etc., mais qui avaient été fabriquées par des humains. Or, il n'y a pas d'humains il y a 2 ou 3 millions d'années, même dans le cas de l'évolutionnisme, qui fabriquait de tels éléments. Ils ont trouvé une boule métallique datée entre 4-5 milliards d'années et 540 millions d'années. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça fait quand même beaucoup pour une pièce métallique. Ils ont trouvé des semelles de souliers, 500 millions d'années. Il y avait personne qui faisait des souliers il y a 500 millions d'années. Et vous avez ici 16 découvertes en 2,8 millions d'années et 1,8 million d'années, des milliards d'années. Tout est répertorié, daté, clairement, les choses sont claires. Alors, les dinosaures et la parole de Dieu. Alors là, je choque des gens, mais tant pis. Parce que moi, je crois, on le verra encore ensemble, mais je crois que Dieu a tout créé au début, en quelques jours. On va discuter de cela. Vous montrerez comment des scientifiques de renommée mondiale disent que c'était obligé que tout soit créé en peu de temps pour que ça fonctionne bien. Et là, dans la parole de Dieu, il en est question. Le problème, c'est que dans Job 40:15, la version seconde, qui est ma version, que j'aime bien, je travaille aussi avec d'autres versions, mais enfin, il n'y a pas de raison d'éliminer la seconde, on est d'accord, surtout qu'elle chante dans nos cœurs quand on l'a depuis longtemps. Et puis il y a d'autres versions, mais il faut savoir quand même que Louis II était quand même un homme touché par le libéralisme. Et donc quand il a vu Behemoth, au lieu de s'attarder sur la description de ce Behemoth, il a dit ben, c'est un hippopotame. Et on trouve dans certaines versions hippopotame, et dans d'autres on trouve behemoth. Ils ont laissé le mot behemoth, ce qui aurait été plus logique. Si on ne sait pas à quoi ça correspond, ben laissons le nom en hébreu. Or, dire que c'est un hippopotame, j'ai envie de dire c'est une hippotânerie, pour ne pas dire que c'est une ânerie, vous comprenez? Parce que, on va le voir. Vous voyez, Job 40, 15, 24, il raidit sa queue comme un cerf. Vous voyez la queue d'un hippopotame? C'est ridiculement petit. Enfin, il n'est pas ridicule, on se comprend, mais c'est vraiment tout petit. Ça ne correspond pas du tout à une queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes de bronze, son ossature comme des barres de fer, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Où est l'épée? Or, soit on croit à la parole de Dieu, et je pense que vous faites partie des chrétiens qui croient encore à la parole de Dieu jusque dans la lettre, parce que c'est ça qui donne la vie aussi, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur, bien sûr. Mais ce n'est pas un hippopotame. Maintenant, qu'en est-il du crocodile? C'est le même problème. C'est le mot Léviathan. Mais regardez, une fumée sort de ses naseaux. Une flamme sort de sa gueule. Dans son cou réside la puissance. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent brisés d'effroi. Sous lui sont des pointes aiguës. Il est le roi des plus fiers animaux. Or, je suis navré, mais un crocodile, il a le ventre lisse. C'est pas moi qui ai mis la main là. Mais il n'a pas une herse sous le ventre. Et il ne crache pas du feu. Or, et là, je ne peux pas entrer dans trop de détails, mais on trouve beaucoup de figurines qui ont été taillées, dessinées, où il y avait vraiment des dragons. Et moi qui rentre de Chine, je peux vous dire que les dragons, ils sont dessinés en Chine, ça je peux vous le dire. Donc, il y a eu un temps où il y avait des dragons qui crachaient du feu. Et d'ailleurs, il existe encore aujourd'hui, vous savez, j'ai donné ces conférences pendant une semaine, tous les jours, des autres sujets. Mais il existe sur la Terre ce qu'on appelle les scarabées bombardiers. Vous avez déjà entendu parler des scarabées bombardiers? Ce sont de petits animaux, tout petits, qui sont capables de chasser l'ennemi qui les poursuit en faisant une explosion avec de la chaleur et vraiment une explosion. C'est minuscule, mais ça existe. Ça veut dire qu'ils ont une chambre de combustion où arrivent deux gaz, mais il ne faut pas qu'ils explosent tout de suite, il faut encore donner le feu, n'est-ce pas? Donc c'est d'une complexité incroyable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui même, il existe des animaux qui sont capables, entre guillemets, de cracher du feu. Donc pourquoi mettre en doute quand la parole de Dieu nous en parle? Maintenant, le déluge. Parce que le déluge est mis en... Oui.
Moi, j'aurais juste une petite remarque par rapport aux dinosaures.
Oui.
Parce qu'on avait visité, là, c'était dans le cadre d'un camp d'évangélisation, l'abbaye de Saint-Maurice.
Oui.
Et puis à l'abbaye de Saint-Maurice, il y a une chambre, je ne sais plus s'il l'appelle plus ou moins comme ça, des trésors.
Oui.
Où il y a des ossements. Oui. Voilà. Hein. Dans le Moyen-Âge, il y avait tout un commerce de ces ossements. Oui. Saint-Jacques-de-Compostelle et compagnie, où on vénérait les saints. Mmh. Et puis, alors, il y a un coffret où il y a un ossement d'un saint, où il y a des ossements d'un saint, pseudo, quoi. Et sur ce coffret est gravé un dinosaure. Mmh. Et ça date du Moyen-Âge, peut-être 1100. Ils ont pu dater le coffret, moi je ne me rappelle plus de tête comme ça. Mais ça fait quand même bizarre de voir un objet du Moyen-Âge avec une gravure d'un dinosaure.
Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai visité, même avec Joseph Produit, qui était l'évêque là, mais il ne nous a pas montré ça. Mmh. Je retournerai voir cela, parce que c'est des témoignages, un témoignage fondamental.
Ah, ça mérite une photo, je pense.
Absolument. Surtout qu'il y a d'autres découvertes comme ça dans le monde. Et j'ignorais celle-là, merci beaucoup de la souligner. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est là qu'il y a des restes aussi de la fameuse phalange thébaine, n'est-ce pas ? Qui étaient des soldats chrétiens qui savaient combattre à cheval. Et l'empereur qui voulait venir combattre en Gaule, il avait appris qu'il y avait des soldats qui savaient combattre à cheval. Et il a fait venir cette phalange thébaine. Et quand ils sont arrivés à ce qui est devenu Saint-Maurice aujourd'hui, ils devaient sacrifier à une déesse, parce qu'il y avait une source là, qui coule encore aujourd'hui dans le monastère. Et il devait sacrifier à cette déesse, et les soldats thébains étaient chrétiens. Ils ont refusé de sacrifier, ils ont été massacrés, et ils ont retrouvé des ossuaires gigantesques de cette... Et vous voyez, ça remonte dans des années vraiment extrêmement lointaines, mais merci, je veux retourner là-bas pour faire une photo, merci beaucoup de signaler cela. Et donc, le déluge est parfois... mis en question jusque dans nos facultés de théologie évangélique, où la thèse aujourd'hui c'est de dire c'était un déluge local. Et je pourrais vous montrer des livres évangéliques qui disent maintenant c'est un déluge local qui croule comme l'évolution, comme pour les dinosaures, sous ce raz-de-marée dit scientifique qui impose leur vue au monde entier et qui formate nos disques durs, notre esprit, au point que beaucoup de personnes, même dans le monde chrétien, me disent « Mais enfin, tu peux quand même pas me dire que, parce que, voilà, non, eh bien, attendez. » Alors, la Bible consacre 5 chapitres au déluge universel. 5 chapitres, c'est quand même important. C'est pas juste comme ça. D'ailleurs, quand il y a un seul verset qui dit quelque chose, c'est quand même la vérité de la parole de Dieu. Même s'il n'y a qu'un verset. Mais quand il y a 5 chapitres, ça fait beaucoup. Et donc, ce qu'on ignore, qu'on ne dit pas, c'est qu'il existe des récits du déluge dans au moins 240 peuples sur la terre. Certains disent même 200. 240 récits, alors qu'ils sont arrangés à leur manière, mais qui disent toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un déluge qui a noyé la terre, et qu'il y avait un bateau, des fois il est en Jean, des fois il est en ceci, en cela, et qu'il y avait des personnes qui ont été sauvées dans ce bateau. Mais ce qui est majeur, c'est qu'on trouve des récits de personnes qui ont vu l'arche, des restes de l'arche. Aujourd'hui, on pense peut-être qu'il n'y en a vraiment plus, parce que ça, on a fouillé, on a cherché. Vous voyez, en 275 avant Jésus, il y a des personnes qui parlent de qu'ils ont confectionné des talismans à partir du revêtement de bitume pétrifié qui couvrait l'arche. Au 1er siècle, après Nicolas de Damas, etc., abordé au mont des épreuves, il a cet homme provient de tout même dont parle Moïse, etc., etc., ils ont plusieurs réfugiés du déluge trouvèrent, dit-on, le salut, etc. 50 ans, Flavius Joseph, etc. Des tas de personnes qui ont retrouvé des restes de cette fameuse arche de Noé. 330, le moine Jacob fait l'ascension de la célèbre montagne et en ramène un morceau conservé au monastère en Arménie, etc. Donc, des récits, j'en ai mis que quelques-uns comme ça, mais il y a des dizaines de récits de personnes qui, dans un lointain passé, ont trouvé des restes de l'arche. Elle a existé, elle était énorme, cette arche. Or, quand on dit aussi, mais d'où venait toute la quantité d'eau? Alors, la Bible est claire. Elle dit que les écluses des cieux se sont ouvertes et que les fontaines souterraines se sont ouvertes. Or, l'univers est composé de masses, mais phénoménales d'eau. Vous voyez, ici, en 1930, on a nommé la planète Pluton, mais depuis, elle a été déclassée parce qu'elle fait partie d'une ceinture où il y a d'autres astéroïdes, il y a d'autres petites planètes qui sont aussi grandes que Pluton. Donc, elle ne fait plus partie des planètes officielles. Mais, dans cette, entre guillemets, petite planète, on découvre qu'il y a un océan de neige fondue d'abord et ensuite d'eau. Et l'eau, c'est 100 km de profondeur. Vous imaginez? 100 km. Alors que nous, on est à 10 km dans nos océans, les fosses les plus profondes. Et là, ils trouvent 100 km d'eau, sans compter la neige et la glace qui est dessus. Vous imaginez? Et c'est une seule petite planète. Donc, de l'eau, il y en a partout. Et je reviendrai certainement sur certains points de ce déluge global, parce que je viens de faire là au mois de fin août, on a fait un séminaire d'une semaine avec des scientifiques, je fais partie d'un groupe de scientifiques depuis longtemps, qui viennent de différents pays, et chaque année on a un séminaire, et cette année on est en Bretagne avec un des géologues mondialement connus, et qui nous a montré, même en Bretagne, je vous montrerai ça sûrement la semaine prochaine, j'aurais besoin peut-être, ici il n'y a pas la Wi-Fi, n'est-ce pas? Mais on m'a dit qu'avec mon iPhone, je pourrais faire marcher, tu sais faire ça toi?
Si on arrive à le faire, connecter sur l'ordinateur.
On ne va pas le faire ce soir, mais j'aimerais vous montrer quelques clips par la Wi-Fi de choses révolutionnaires qui prouvent la véracité du déluge universel. Mais moi, j'ai été choqué, je vous le dis. Pourtant, j'aime la Ligue pour la lecture de la Bible. Hein. C'est même là que le Seigneur m'a rencontré il y a fort longtemps. Et combien j'ai aimé et connu Maurice Ray et tant d'autres, les sœurs de Benoît. Mais il y a 4 ans, quelque chose comme ça, mon épouse achète 2 livres à la Ligue pour nos petits-enfants, notre petit-fils de Paris que j'allais chercher. Et puis elle me montre ce livre, je regarde avec intérêt. Tu aimerais changer,